au cœur de l'histoire,
les grands portraits sur Europe 1.
Et c'est un grand homme de théâtre que Franck Ferrand a choisi de mettre à l'honneur cette semaine. Bonjour Franck.
Bonjour Anne-Sophie, bonjour à tous. Anton Tchekhov est un des maîtres du théâtre russe et pour nous aider à cerner le personnage, j'ai convié à nous rejoindre un des piliers de notre troupe à nous au cœur de l'histoire, Vladimir Fedorovski.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Les grands portraits.
Franck Ferrand.
La médecine est ma femme légitime, la littérature est ma maîtresse. Quand l'une m'ennuie, je vais passer ma nuit avec l'autre, avait coutume de dire Anton Tchekhov, le plus grand dramaturge russe et sans doute un des plus grands de toute la littérature. L'auteur d'Ivanov, de la mouette, donc le Vania, de Trois Sœurs, de la Cerisaie évidemment, Anton Tchekhov est l'écrivain qui a pénétré le plus dans les tripes de la société russe et de la nature humaine, nous dira tout à l'heure Vladimir Fedorovski. Cette société russe, c'est à l'époque, on est à la toute fin du 19e et au tout début du 20e siècle. C'est la société des petits paysans et des prêtres anonymes, celle des babouchkas, celle aussi des soulèvements ouvriers, des déportations en Sibérie. C'est bien sûr la Russie des tsars, mais une Russie des tsars déjà dépassée par celle des hommes d'affaires. C'est la Russie des forêts de bouleaux traversées par le chemin de fer et des clochers à bulbes renversés par les grands hôtels. Tchekhov incarne cette transition, il est un pont entre le temps révolu de la Russie immobile, de ses maîtres de la terre, de ses seigneurs qu'on appelait les barines, il y avait tout l'éclat des tsars bien entendu, et le temps des tourments, des tragédies du XXe siècle. Une Russie qui entre déjà dans un bouillonnement, dans une effervescence sociale et politique telle qu'elle n'en avait jamais connue, en tout cas dans de telles proportions. La médecine est ma femme légitime, la littérature est ma maîtresse, disait donc Tchekhov. Une femme va tout de même réussir à se faire une place dans le cœur du dramaturge et ce faisant, elle aura une grande influence sur son œuvre. On pourrait presque dire que dès lors, elle aura une grande influence sur les mentalités russes. Mais avant de rencontrer cette femme, rejoignons, si vous le voulez, Tchekhov dans ses jeunes années. Il a vécu ses premières années, le petit Anton, dans le magasin de son père. Il tenait la boutique, on y reviendra hein, d'ailleurs tout à l'heure avec Vladimir. Il était né en janvier 1860 à Taganrog. C'est une ville intéressante parce que c'est là qu'était mort ou qu'est réputé être mort le tsar Alexandre Ier.
Vous me bluffez parce que c'est un des secrets de l'histoire, si vous me permettez, de la Russie éternelle.
Exactement.
Vous l'avez percé.
Alors, est-ce que le tsar est mort à Taganrog ou est-ce qu'il a fait semblant de mourir? C'est une autre histoire. On n'ouvrira pas, évidemment, la question. On n'ouvrira pas le dossier aujourd'hui. Néanmoins, l'enfance du petit Tchekhov est difficile. Dans mon enfance, je n'ai pas eu d'enfance, dira-t-il plus tard, avec cet humour désenchanté qu'il prêtera si souvent à ses différents personnages. Son père est sévère, caractériel. Il faut imaginer une enfance au coup de fouet, hein, quand le père entre dans des colères noires. Il faut imaginer les larmes de repentir à genoux devant les icônes. Enfin, on est vraiment dans cette culture russe, bien entendu. Quatre frères, une sœur, Masha. Tout ce petit monde au bord de la misère, et une misère sans doute, qui va aiguiser la perception que le jeune Anton aura du monde, va sans doute aussi forger sa volonté d'échapper à la monotonie d'une vie qui paraît être sans cesse recommencée et sans perspective et sans espoir, d'autant plus qu'il est, vous l'aurez compris, d'une sensibilité exacerbée, ce jeune Anton, qu'il est très doué, il va parfaitement réussir ses études, des études de médecine, qu'il entreprend contre toutes les traditions de son milieu et qu'il va parfaitement réussir. Il faut vous dire qu'il a une volonté d'acier. Dans la volupté des neiges, Vladimir Fedorovski, dont vous aurez compris qu'il est déjà assis ici avec nous dans ce studio, écrit, je le cite, « En vérité, il était un vrai fils du XIXe siècle, par son intelligence orientée vers les sciences exactes, par sa profonde foi dans le progrès et même par l'impressionnisme de son style. Il savait que quoi qu'il en soit, sur cette terre, nous ne pouvons rien comprendre. Ça, ce sont les termes mêmes de Tchekhov. Seuls les imbéciles et les charlatans comprennent tout. Ça, c'est Tchekhov toujours, bien sûr, mais c'est aussi l'état d'esprit général des Russes hein, qui donne toujours aux starets, aux vagabonds, aux illuminés, une sorte d'intelligence suprême. Il la leur prête, en tout cas. Tchekhov sort diplômé de la faculté de médecine en 1884. On n'est pas très longtemps après l'assassinat du tsar Alexandre II. On est dans cette période de grande agitation souterraine dans la société russe. Il ne faut pas oublier que Lénine va bientôt se manifester dès 1891. À l'époque, Anton a 24 ans, puisqu'il est né en 1860, et il n'a déjà plus que 20 ans à vivre, car, et c'est peut-être un des secrets de ce destin assez fulgurant, qui est un peu celui d'une étoile filante, c'est que la vie de Tchekhov aura été fort brève, somme toute. Donc, Anton a entrepris ses études de médecine, il est diplômé, il est médecin, il va prendre un peu les rênes de la famille, il faut bien le dire. Ses frères sont tombés, pour la plupart, en tout cas dans une sorte de déchéance. Et en dehors de ses visites à ses clients, à ses visites médicales, si je puis dire, d'ailleurs il ne se fait pas payer par tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire, il se met à écrire des articles, des nouvelles pour les journaux. Alors il écrit ça comme ça, il faut imaginer la lampe à pétrole, bien sûr, on est sur un coin de table, il y a le brouhaha familial et Anton qui écrit sous le regard fasciné, admiratif de sa petite sœur Masha, qui est peut-être le grand personnage et le personnage quasiment absent en même temps de sa vie. Elle fait penser, vous savez, à cette petite fille qu'on voit traverser la ronde de nuit sur le grand tableau de Rembrandt. Elle est là et en même temps, personne ne sait qui elle est vraiment. On va y venir tout à l'heure, car puisque Vladimir aime les énigmes, celle-ci est une énigme à percer, bien entendu. Anton n'a pas une santé très solide. Il va bientôt contracter la tuberculose. C'est la grande maladie de l'époque. Bien entendu, il faut l'imaginer toussant et toussant de plus en plus et crachant du sang. Il n'a somme toute de vrai plaisir que dans l'exercice de sa médecine et dans l'écriture de ses textes. Alors au début, il n'a pas l'impression, lui, de faire des choses particulièrement remarquables. Ce sont des textes parmi d'autres. Sauf qu'un jour, un écrivain très populaire dans la Russie de l'époque, qui s'appelle Dmitri Grigorievitch, vient le voir et lui dit « Mais vous êtes extraordinaire, j'ai pour vous une grande admiration, vous êtes doué d'un talent immense ». Évidemment que Anton va le croire, il se voit d'un seul coup pousser des ailes et il se dit que la littérature est peut-être après tout sa véritable vocation.
Tchaïkovski sur Europe 1, c'était la valse sentimentale. On vous retrouve dans un instant, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur Anton Tchekhov.
Franck Ferrand.
Les grands portraits.
14h, 15h sur Europe 1.
Et Franck Ferrand.
Vladimir Fedorovski, et j'ai fortement tendance à le croire, notre Tchekhov était convaincu, je le cite, que c'était de justice que les Russes avaient le plus grand besoin et qu'ils pouvaient contribuer à son avènement, à l'avènement de cette justice, en soignant. Vous voyez qu'il ne perd jamais de vue cette profession de médecin qui est la sienne. D'ailleurs, je dis profession, on pourrait parler de là de vocation. Un médecin qui se considère quasiment presque autant comme un agent social que comme un diagnosticien du reste. Et en écrivant, bien entendu, on est dans ces années 1890 où la Russie est le théâtre de famines terribles. Le choléra sévit dans les campagnes. On n'imagine pas à quel point ce pays, par ailleurs si moderne et qui est en pleine explosion, avec ses capitaux qui affluent d'Europe occidentale et qui permettent de bâtir une industrie, de bâtir des infrastructures dans toute, au moins dans toute la partie ouest de la Russie, on n'imagine pas à quel point, par ailleurs, tout ça s'accompagne quand même de la rémanence de conditions de vie très dures. Et l'amour dans tout ça, me direz-vous, on y vient. Tchekhov, dans un premier temps, ne lui accorde pas vraiment d'importance. Il faut vous dire que la tuberculose ne devait pas le prédisposer aux projets conjugaux. Il savait tout de la maladie. Il savait qu'il n'avait sans doute pas tellement à vivre. En même temps, c'est une maladie et un traitement qui ont tendance à stimuler l'appétit sexuel. Donc il y a des besoins incontestables chez Anton Tchekhov. Il voltait d'une fleur à l'autre sans intention de se poser ni de fonder une famille, nous dit Vladimir. C'était sans compter avec une rencontre théâtrale, nous allons le voir. Voilà comment Vladimir Fedorovski décrit Tchekhov. C'est qu'il plaisait beaucoup, dit-il. Il était joli garçon, avec des traits réguliers, une bouche pulpeuse et bien dessinée, ses beaux yeux noirs légèrement bridés qui trahissaient des ascendants tatars et ses cheveux drus dont les mèches tombaient sur son grand front. Il séduisait beaucoup, mais aucune de ses conquêtes n'était parvenue à leur tenir. Il n'avait pas davantage tenté d'en retenir une. Et oui, c'est peut-être ça aussi. Il a un intérêt très vif pour les femmes, c'est incontestable. On le ressent dans son travail littéraire, on en parlera tout à l'heure. C'est sans doute ce qui fait le charme de ses œuvres, qu'elles soient épouse, maîtresse, actrice, institutrice, paysanne, lavandière, prostituée, entrepreneuse. Les femmes sont là au cœur de l'œuvre de Tchekhov, bien entendu. Quand la rencontre a lieu, il est en train de se consacrer au théâtre. Jusque-là, il écrivait avec plaisir, mais sans grand attachement à ses œuvres. Tout va changer quand il commence à créer vraiment pour la scène. Il avait écrit une première pièce, Ivanov, puis une première version d'Oncle Vania, et c'est en 1895 que paraît La Mouette. D'ailleurs, La Mouette sans aucun succès. Il faut le dire, ça n'a pas toujours été un théâtre de succès, le théâtre de Tchekhov, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, bien sûr, dans le monde entier. Sa santé s'aggrave à l'époque, il doit s'en aller à Nice pendant un certain temps pour essayer d'échapper au terrible hiver continental. L'hiver passe, il est épuisé, il est triste, et là, deux amis, Vladimir Nemirovitch Datchenko et Konstantin Stanislavski vont créer le théâtre d'art de Moscou. C'est très important cette création parce qu'il y a là une ambition qui est de programmer des œuvres à la fois exigeantes, évidemment à l'époque j'allais dire on n'aurait même pas envisagé autre chose chez ces gens, mais des œuvres destinées au grand public. Et ce sont eux qui vont demander à Anton de leur écrire quelque chose. Vous voyez que la rencontre arrive, je vous sens impatient, mais elle arrive. Tchekhov va s'y mettre et va s'y plonger dans cette œuvre. Il a 38 ans, la solitude lui pèse de plus en plus à l'époque, et il écrit dans ses carnets « De même que je serais couché seul dans ma tombe, de même, somme toute, j'aurais vécu seul ». Ça, c'est le genre de constat que Tchekhov est un des rares, non seulement à faire, ça nous faisons tous plus ou moins de temps en temps ce genre de constat, mais lui va jusqu'à les exprimer et jusqu'à les écrire et même jusqu'à les faire dire à ses personnages. Il est invité à la dernière répétition du Tsar Fédor, qui est un drame historique de Tolstoï, choisi pour inaugurer le fameux théâtre de Moscou, théâtre d'art. Voilà ce que nous raconte Vladimir Fedorovski. Il se cala dans un fauteuil au troisième rang pour assister au spectacle. C'était le 9 septembre 1898. Il faisait un peu lourd dans la salle et on s'agitait autour de lui. C'est alors qu'il la vit entrer sur scène et commencer de jouer. Il frissonna. Elle avait une voix magnifique, claire, chaude, pleine, délicieusement modulée. Il remarqua aussi l'ardeur de son jeu. Il avait vraiment sous les yeux le personnage clé du drame. Il fut subjugué. Il avait 30 ans, elle était de petite taille, elle était dotée d'yeux extrêmement noirs et brillants comme des braises. Sa lourde chevelure qu'elle relevait en chignon sur la tête était splendide, surtout. Elle avait ce timbre superbe qui prenait dans ses filets tous ceux qui l'écoutaient et elle jouait exactement comme il ne cessait de le recommander, comme si elle était dans la vie réelle. Qui est-elle, cette comédienne qui va littéralement fasciner Tchekhov? C'est Olga Leonardovna Knipper, la Knipper, si je puis dire. Quand il lui demande si elle est mariée, elle répond « Non, 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 je n'ai qu'une passion, le théâtre. Oh, c'est une femme de caractère. Elle a en elle la force. Son parcours n'a pas été facile. Toujours est-il qu'elle était là à participer à l'expérience de théâtre la plus révolutionnaire peut-être, sûrement la plus enthousiasmante qu'on eût vue à Moscou depuis très longtemps. » Anton Tchekhov, je vous l'ai dit, n'était pas du genre à s'attacher, pour des raisons que vous aurez maintenant comprises. Néanmoins, il est tombé sous le charme, et il est tellement tombé sous le charme que cette fois, oui, sa vie va basculer.
Franck Ferrand,
les grands portraits,
14h, 15h sur Europe 1.
Et Franck Ferrand, vous nous parlez de l'un des auteurs les plus connus de la littérature russe, Anton Tchekhov.
Anton Tchekhov vient d'inviter Olga à venir passer un petit séjour à une soixantaine de kilomètres au sud de Moscou, dans une maison qu'il occupe très souvent, dans la petite ville de Lopasnia. Au pas seul, bien sûr, avec un certain nombre des comédiens de la troupe. Et puis sur place, de toute façon, il y a la famille, toujours. Olga est charmée, elle est charmée par le lieu, sans doute, par l'atmosphère poétique qui règne là, mais surtout, évidemment, elle est charmée par Tchekhov lui-même. Et lui aussi la trouve gaie, spirituelle et séduisante. Au retour, elle prend la direction du Caucase, elle s'en va chez son frère, et il lui écrit, ça va être le début d'une longue correspondance, plus de 500 lettres échangées entre eux. Elle l'invite à son tour le 18 juillet 1899. Il la rejoint à Novorossiisk et ensemble ils vont prendre le bateau en direction d'Yalta, là où il est en train de construire sa nouvelle demeure, la datcha blanche, parce que les médecins lui ont dit « Il suffit plus maintenant d'aller passer quelques mois par an au soleil, il faut que vous y restiez au soleil ». Et ils vont passer là des jours absolument délicieux. Vladimir nous dit, ils passèrent leur journée à flâner, à lézarder au soleil dans des chaises longues, à parler théâtre. Bref, un délice. C'est l'heure du retour à Moscou. Olga est maintenant seule dans son appartement, rongée par la nostalgie de ces quelques journées extraordinaires. Lui part pour la Crimée. Elle se promet d'attendre de ses nouvelles. En fait, elle ne va pas tenir. Elle tient 4 jours et elle lui écrit « J'étais si triste quand vous êtes parti. J'avais le cœur si gros que j'aurais pleuré tout le long du chemin. Avant de m'endormir, j'étais avec vous en pensée. » Et il lui répond avec des mots tendres, de plus en plus tendres. Il est évident que lui maintenant aussi est très attaché à elle. L'hiver 1900 est si rude. La troupe décide de débarquer à Sébastopol, qui est une belle ville bien ensoleillée de Crimée, pour jouer devant Tchekhov, la mouette et oncle Vania. Sébastopol puis Yalta fêtent la jeune troupe et leur auteur fétiche. « À partir de ce voyage, écrit Vladimir Fedorovski, ils surent qu'ils étaient amoureux et qu'ils avaient envie de se le dire et de le vivre dans les bras l'un de l'autre. » Elle le rejoint donc dès que le théâtre le lui permet. Ils passent des moments extraordinaires, des étés merveilleux notamment, mais impossible pour lui de la suivre à Moscou, toujours à cause de ce froid, de cette humidité de la capitale, bien entendu, enfin de la capitale, la grande ville de la Russie à l'époque. Il en sera toujours ainsi. Même s'ils avaient veillé à ce que personne ne sache rien de cette histoire, inutile de vous dire qu'autour, tout le monde est au courant. Personne n'est dupe. Un jour, elle lui écrit pourtant « Je suis fatiguée de cette cachotterie. Viens dès les premiers jours, nous nous marierons et nous vivrons ensemble. Écris-moi tout, la moindre petite vétille et ne t'en tire pas éternellement avec des plaisanteries. » Que faire ? Anton a bien l'intention cette fois de s'engager. Vladimir nous raconte qu'il s'en était ouvert à Souvorine, son éditeur, qui insistait pour qu'il se marie. « Soit je me marie, dit-il, si c'est ce que vous voulez. Mais voici mes conditions. Tout doit rester comme avant. C'est-à-dire qu'elle devra vivre à Moscou et moi à la campagne et que je lui rendrai visite. Le bonheur qui dure jour après jour, d'un matin à l'autre, je ne peux pas le supporter. Quand on me dit la même chose sur le même ton tous les jours, je deviens furieux. Je promets d'être un mari merveilleux, mais donnez-moi une femme qui, comme la lune, n'apparaîtra dans mon ciel tous les jours. » Les noces ont lieu le 25 mai 1901. Tchekhov insiste pour qu'il n'y ait que les quatre témoins. Il n'y a même pas les amis proches. Olga ne le savait pas, mais une des raisons qui a fait hésiter Tchekhov, c'est qu'il a appris que cette fois la maladie s'est emparée de lui, que son état de santé va se dégrader de plus en plus et que vraiment l'avenir est très sombre. On parle de leur amour, mais évidemment, dans la correspondance entre Anton et Olga, c'est surtout de théâtre qu'il est question, car c'est leur passion, à l'un comme à l'autre. Il est question de sa carrière à elle, il est question de ses pièces à lui. Elle lui pose notamment des questions sur les personnages qu'elle interprète, sur le sens de certaines répliques. Il écrit les pièces en pensant à elle sur scène, et c'est peut-être ce qui maintenant encore, ce qui en 2015 les rend toujours si vivantes, ces pièces extraordinaires. Pour Anton Tchekhov, nous dit Vladimir, elle était la femme qui portait à la lumière avec un talent éclatant les héroïnes d'encre et de papier qu'il confectionnait dans la solitude de sa datcha. Mais elle était aussi celle qui vivait cette passion pour lui, non par procuration, mais dans une sorte de gémellité lumineuse. Bonjour Vladimir Fedorovski.
Bonjour Franck Ferrand.
On vous a déjà entendu à ce micro tout
et
à l'heure.
Et je n'ai pas perdu mon accent.
Non, heureusement, nous sommes en Russie aujourd'hui et c'est un peu grâce à vous que nous y sommes.
Franck Ferrand.
Les grands portraits.
14h, 15h sur Europe 1.
L'un des plus grands dramaturges des temps modernes, Anton Tchekhov, est notre grand portrait d'aujourd'hui. Et Franck Ferrand, vous recevez l'écrivain et ancien diplomate Vladimir Fedorovski, auteur de La Volupté des Neiges, paru aux éditions Albin Michel.
Nous sommes avec Anton Tchekhov et évidemment, cette fin de vie va être terrible parce que il a enfin trouvé l'amour. Ils ne passeront ensemble avec Olga que l'été de l'année 1903. Quand elle repart, il n'a plus vraiment envie d'écrire. Il a des doutes d'ailleurs sur sa dernière œuvre qui est la Cerisée. Le dernier acte finalement sera terminé début 1904. Il est vraiment très malade. Là, il a eu déjà deux crises cardiaques. Il va voir la Cerisée à Moscou, ça c'est extraordinaire, et accueilli par des tonnerres d'applaudissements. Quelle pièce, il faut dire. Il y a quand même une chose, alors je vais faire ce qu'on appelle du spoiling, mais quand on voit la Cerisée pour la première fois, on est sidéré par cette scène finale. On est dans cette, il faut imaginer, dans cette espèce de grande propriété éternelle au milieu des cerisiers, bien entendu. Et puis il y a ces aristocrates qui ne comprennent pas qu'un autre monde est en train d'advenir, que le monde capitaliste est là, qui pousse aux portes, et l'industrie et la révolution aussi, bien entendu. Et puis la propriété sera finalement vendue et à la fin, on a oublié, c'est terrible parce qu'on a oublié le maître d'hôtel, le vieux serviteur qui était là depuis l'époque d'avant l'abolition du servage, qui était un peu l'âme de la famille et de la maison, et tout le monde est parti précipitamment. Il est là, il est resté dans la maison, il s'assied et l'on entend autour de la maison devenue une sorte de grand sépulcre, on entend tomber, enfin d'abord les coups des haches des bûcherons et puis on entend tomber les cerisiers un à un et c'est comme ça que s'achève la Cerisée. Vous imaginez bien sûr le public est transi d'admiration. Néanmoins, ce que le public ne sait pas à l'époque, c'est que Tchekhov est tout à fait à la fin de sa vie. Elle va, Olga, l'accompagner en Allemagne, suivre une cure. Et voilà ce que nous raconte Vladimir dans La Volupté des Neiges. Elle lui tenait la main, dit-il, il souriait. Elle lui donnait des nouvelles de ses pièces qui se jouaient dans toute l'Europe. La Cerisée remportait un beau succès. Le 15 juillet, il se sentit mieux, presque dispo. Il lui demanda une coupe de champagne. Il but sa coupe, puis il lui sourit et lui dit soudain, l'air un peu étonné, « Je meurs ». Et c'est ainsi qu'il rendit son dernier souffle, Vladimir.
C'est extraordinaire cette scène. Champagne et puis « Je meurs ». Extraordinaire, Tchekhov.
C'est théâtral.
C'est théâtral, c'est Tchekhov. Vous savez, j'ai hésité, il fallait choisir pour La Volupté des Neiges des personnages. Je vais vous dire, ce livre a été conçu il y a beaucoup d'années, quand il y a grand personnage de là-bas m'a donné les lettres d'amour encore de Catherine II. Où Catherine II, inédite Catherine II.
Mais on y viendra tout à l'heure.
Mais je vais vous dire, et j'ai cherché les personnages qui incarnent les choses. L'amour bestial, évidemment, c'est Tolstoï. Et puis, elle dit, Catherine, c'est pas l'esprit de l'escalier, c'est pas la rencontre, c'est la force de souvenir. Et j'ai cherché qui peut incarner ça. Et finalement, c'est le préféré de Franck Ferrand, c'est Anton Tchekhov.
Oui, Tchekhov est sans doute le dramaturge. Vous savez, moi, quand je vais voir des tableaux de Velázquez, j'ai envie de peindre. Et bien, quand j'assiste à une pièce de Tchekhov, j'ai envie d'écrire du théâtre. On a l'impression
que vous faites du théâtre.
Oui, si l'on peut dire, d'une certaine manière, très improvisé néanmoins. On a l'impression avec Tchekhov que tout est simple, que tout est lumineux. Les personnages sont au moins aussi théâtraux que réels. Comment expliquer ça? On sait, pendant qu'on assiste à la représentation, quelle que soit la mise en scène, quelle que soit, etc., on sait qu'on est au théâtre et pourtant c'est bien la vie, c'est bien quelque chose d'universel qui se déploie sous nos
absolument.
Yeux.
Absolument. Universel, c'est le mot. Universel, c'est le mot qu'on retrouve. Il y a un aspect, tout d'abord, il y a l'aspect profond, on en a parlé tout à l'heure. La culture russe est universelle. Et Tchekhov, c'est le plus universel de la culture russe. Évidemment, c'est là-bas. Et puis, Tchekhov, c'est éminemment moderne. Tolstoï, c'est le 18e siècle. Dostoïevski, c'est le 20e siècle. Tchekhov, c'est le 21e siècle.
Quand vous dites Tolstoï, c'est le 18e siècle, il écrit au 19e. Mais enfin, on est encore dans
oui,
la tradition.
Mais on est dans ses fantasmes.
Oui, voilà.
Tolstoï, pour moi, c'est un grand. C'est dans La volupté de neige, Tolstoï et Tchekhov, c'est antithèse carrément. Parce que Tolstoï, il dit tout.
Ah oui,
vous savez,
oui.
Je fais
beaucoup plus
de Tolstoï, dans mon livre, je fais ce Tolstoï érotique. Dans la réalité, c'est une sorte de, comment vous dire, de DSK mystique, Tolstoï. Tandis que Tchekhov, tout est suggéré, rien n'est dit. Et vous allez voir, vous avez parlé de ces pièces, mais dans mon fort intérieur, je place les nouvelles de Tolstoï.
Ah oui.
Au plus haut. Cette nuit, tout est. Nous ne choisissons rien. Je me suis réveillé et je prends au hasard. Et c'était la dame opticien de Tchekhov dans ma bibliothèque. J'ai pris Tchekhov par hasard et je regarde, rien ne se passe. Juste une petite rencontre dans le midi de la Russie, une femme, un homme. Mais c'est beaucoup plus fort que les écrits de Tolstoï où il raconte ses exploits charnels, tout. Et Tchekhov, tout est suggéré. Et vous êtes bluffé. L'atmosphère de Tchekhov, vous avez si bien dit et si bien présenté. Sa meilleure pièce pour moi aussi, la série Z comme la dame de Petit Chien. Relisez Tchekhov et vous allez retrouver non seulement la Russie éternelle, mais aussi les sentiments universels qui nous rattrapent au XXIe siècle.
Cette société dite immobile de la Russie du XIXe siècle est à l'époque traversée au temps de Tchekhov. On est dans ce qu'on appelle en France la Belle Époque, les années 1890-1900. Elle est traversée par des mouvements très puissants. D'un côté, un mouvement révolutionnaire qui cherche à se structurer et qui va finir par l'emporter avec la fameuse révolution, d'abord de 1905 puis de 1917. Et puis d'un autre côté, peut-être plus visible encore à l'époque de Tchekhov, ce mouvement capitaliste qui est en train d'investir au sens propre la Russie et de la transformer avec une brutalité incroyable.
Bien sûr, mais Tchekhov, c'est aussi pour moi un symbole. La Russie de l'époque, au fait, a créé toute une civilisation. À vrai dire, c'est une sorte de sommet de la civilisation russe. Regardez les noms qu'on a présentés. Tchekhov, Tolstoï, Dostoïevski, les ballets russes, sans parler des industries extraordinaires de la Russie qu'on peut développer à la fin un sommet qui est exprimé par ces symboles et évidemment c'est bien là. Il y a un autre aspect. Tchekhov, dans ses récits, mais au-delà de ça, il y a une sorte de pressentiment. Il y en a deux qui ont pressenti la tragédie sans nom, quand même, qui va rattraper l'Union soviétique et la Russie. Plus tard, 25 millions de morts dus aux efforts de Lénine, de Trotsky et de Staline. Il y en a deux qui ont senti cette civilisation extraordinaire et festive de Saint-Pétersbourg. Il y avait Tchaïkovski dans sa pathétique. Extraordinaire la musique. Il a tout compris. L'atmosphère. Évidemment, il y a quand je vous ai parlé, le souvenir de cette époque, le souvenir de la Russie, mais aussi pour Tchekhov, le plus fort que tout, le souvenir de l'amour. Vous avez commencé à décrire leur rapport quand même épistolaire. Dans les lettres, j'utilise les lettres inédites, mais chez eux, il y avait plus de 500 lettres. Mais j'étais servi.
Oui,
c'est pas seulement le théâtre, mais le souvenir de l'amour, c'est plus fort que la rencontre et même plus fort que l'esprit
de l'escalier
conventant.
Comme une sorte de nostalgie anticipée à la manière du fado portugais un peu. Voilà ce que Trofimov, hein, l'étudiant exalté, comment est-ce qu'on pourrait le définir, le révolutionnaire de la Cerisée, parle à Anya, qu'il aime et qu'il agace tout à la fois, bien entendu. Toute la Russie est notre Cerisée. Lui dit-il, la terre est vaste et belle, il y a beaucoup d'endroits splendides. Alors là, il y a une pause, il y a beaucoup de pauses dans le théâtre de Tchekhov. C'est peut-être d'ailleurs ce qui, avec la douceur des lumières, lorsque c'est bien mis en scène, contribue à cette poésie inouïe. Imaginez, Anya, votre grand-père, votre arrière-grand-père, tous vos ancêtres possédaient des esclaves, ils possédaient des âmes vivantes. Et ne sentez-vous pas, dans chaque fruit de votre cerisée, dans chaque feuille, dans chaque tronc des créatures humaines qui vous regardent? N'entendez-vous pas leur voix? Posséder des âmes vivantes, mais cela vous a dégénéré, vous tous vivants ou morts, si bien que votre mère, vous, votre oncle, vous ne voyez même plus que vous vivez de dettes sur le compte des autres, le compte de ces gens que vous laissez à peine entrer dans votre vestibule. Nous sommes en retard d'au moins 2 siècles. Nous n'avons rien de rien, pas de rapport défini avec notre passé. Nous ne faisons que philosopher, nous plaindre de l'ennui ou boire de la vodka. C'est tellement clair. Pour commencer à vivre dans le présent, il faut d'abord racheter notre passé, en finir avec lui. Et l'on ne peut le racheter qu'au prix de la souffrance, au prix d'un labeur inouï, sans relâche. Comprenez cela, Anya. Comprenez cela, Anya, ça donne quoi en russe?
Uznai, как это будет, oui. Пойми, как это будет. Tout ça, c'est extraordinaire, parce que le son de coupe de bois, rien que ça. Qu'est-ce qu'on coupe? La cerisée. Mais plus tard, au goulag, il y aura le même son.
Au cœur de l'histoire,
les grands portraits sur Europe 1.
Tchaïkovski sur Europe 1 avec la symphonie pathétique et Anton Tchekhov est notre grand portrait d'aujourd'hui. À cette occasion, Franck Ferrand, vous recevez l'écrivain et ancien diplomate, hein, Vladimir Fedorovski, auteur de La volupté des neiges, paru chez Albin Michel.
On avait avec Tchekhov des amours, Tchekhov et Olga bien entendu, des amours tout en finesse, des amours presque épistolaires, quelque chose vous nous dites en demi-teinte, presque non dit, rien à voir avec les amours tapageuses de l'inépuisable Tolstoï.
Tolstoï, pour moi, c'est vrai, c'est une sorte d'antithèse du livre, et j'ai hésité pour les deux. C'est une très longue histoire, c'est plus de 30 ans que j'ai pensé qu'il faut que je fasse ça. J'étais un jeune diplomate, vous dites, en Mauritanie, et ma mère, quand je partais, m'a donné un journal de Tolstoï. C'est 6 tomes. Comme je n'avais rien à faire pendant 4 ans, j'ai souligné les choses dans le journal. J'ai oublié, parce que dans le journal, il raconte tout, ça, ses manières de vivre, mais surtout, dans le journal, Tolstoï, il raconte tout sur sa vie sentimentale. Et encore à l'époque, à 24 ans, j'ai pensé que c'est un des plus grands écrivains érotiques. Et puis j'ai oublié. Et puis quand je rédigeais ce texte, la nuit, encore une fois, un volume tombe, un signe, et ça s'ouvre sur un épisode. Tolstoï, c'était, je vous ai dit, qu'un DSK mystique, mais il décrit tout. Il décrit tous ses exploits. C'est un écrivain extraordinaire. Il a passé la nuit avec la paysanne qu'il aime, et puis il était une sorte de fétichiste de ses mains. Il embrasse ses mains, il lave ses mains. Il décrit ça. Et ça, c'est sur ce moment-là. Et j'ai dit, tiens. Et j'ai commencé, et tout ce que j'ai souligné autrefois est réuni. Et on raconte tout, Tolstoï, les tziganes, Tolstoï. Surtout, il y a les épisodes quand il était officier au Caucase. Inépuisable. Pour le vrai mot, c'est, ils sont avec Tchekhov à Yalta. Il bavarde. Tolstoï, il a 80 ans.
Et puis, c'est devenu un monument. Hein. Il faut dire que c'est une légende vivante.
Les gens
bien sûr,
oui. Parce que
les gens viennent le toucher comme un saint.
Il était fondateur presque d'une religion. Prophète, Romain Rolland, Gandhi, tout le monde, les plus admirateurs. Il regarde la mer Noire et puis il se retourne vers Tchekhov. Il dit, j'étais infatigable. Infatigable, Tolstoï. Le paradoxe, qu'il décrit tout. Vous ne pouvez pas imaginer, mais c'est vrai que dans le journal, quand on réunit, il faut dire que ça a beaucoup choqué la femme de sa vie, qui était, elle était vraiment exténuée par ses exploits charnels, il faut dire, 13 enfants, tout ça, elle ne pouvait plus. Et ça, c'est, je dois vous dire qu'il a donné à lire ce journal intime à sa femme. Ça l'a presque brisé, parce que vous avez peut-être remarqué, ça c'est une chose qui m'a frappé quand j'écris La volupté de neige, que les couples extra-conjugaux, ils se cachent et en même temps, quand ça marche, ils veulent que ça se sache. Et c'est exactement Tolstoï. Il se cache et en même temps, il nous livre absolument tout sur ça et c'est une telle force. Il est presque plus fort en décrivant lui-même qu'en décrivant Anne Karénine ou encore Natacha Rostov dans Guerre et Paix.
Alors dans votre ouvrage, il y a un personnage qui est un auteur démiurgique de la taille, si je puis dire, de Tolstoï, même s'il n'en a pas eu la longévité. Le paradoxe, c'est que ça n'est pas du tout un auteur russe, c'est même le plus célèbre auteur français, mais qui était tombé fou amoureux d'une russe, c'est Balzac.
Oui, d'une polonaise, pour être ça.
À une époque où la Pologne faisait partie de...
Bien sûr, mais au-delà de ça, je vais vous dire, Balzac, dans La volupté de neige, symbolise quelque chose aussi de profond. Vous avez dit l'amour épistolaire. Dans le catalogue de Catherine, il y avait l'amour épistolaire, mais il y avait l'amour, le fantasme. Pourquoi il est présent dans ce livre? Parce que Balzac, il a fantasmé énormément sur
Madame Anska.
Et sur la Russie. Sur la Russie, son fantasme, c'était ça. La Madame Anska, c'est assez banal, mais vraiment volcanique. Il y avait plusieurs rencontres de début, volcaniques, ça marche d'une manière extraordinaire. Puis il y a plus de 10 ans de distance quand ils ne se voient pas, mais ils s'écrivent. Et encore une fois, pour moi, les lettres, c'est les sésames. Parfois les lettres inédites, parfois moins connues, mais les lettres de Balzac, c'est connu. Je le fais parce que le fantasme se réalise au fur et à mesure des lettres. Et finalement, les lettres inédites qui m'ont été données par un personnage absolument illuminé, un fossoyeur du communisme, ancien numéro de Gorbatchev, Yakovlev, il était passionné de Balzac. Il considérait Balzac, et Balzac, il est un des auteurs que les Russes considèrent comme le sien. Et ce livre aussi, il y a un petit clin d'œil par rapport à l'actualité. Vous savez, la crise aujourd'hui, etc., et beaucoup de choses. C'est aussi pour soigner la tristesse de notre époque, évidemment. Mais aussi, il y a un danger de rupture historique avec la Russie. Et quand je mets Balzac, Tolstoï, tous ensemble, je dis, faites attention. ça n'appartient à personne. Tout ça, c'est une civilisation commune. Les néophytes d'aujourd'hui passeront, les peuples, ils restent, et l'affinité franco-russe, exprimée par Balzac, évidemment, restera jamais.
Le peuple et la culture, et cette espèce de fraternité d'âme qu'il y a entre ces deux pays et ces deux cultures, c'est très évident qu'il y a des liens très profonds entre la culture russe et la culture française. Il y a tellement de Russes francophiles, mais je vous rassure, Vladimir, beaucoup de Français russophiles également, bien entendu. Alors, si on remonte dans votre ouvrage, on quitte, si je puis dire, les amours épistolaires et littéraires pour réaborder les amours impériales, avec notamment cette relation extraordinaire entre Alexandre II. Alexandre II, c'est l'empereur, c'est le tsar qui abolit l'esclavage.
L'esclavage, et s'il réussissait, dans ce cas-là, la révolution ne pouvait pas vraiment tomber. Et je dois vous dire que le tsar Alexandre, c'est aussi un hasard. Cette fois-ci, il, encore une fois, affinité franco-russe. Peu de gens savent que la collection épistolaire, quand même, entre le tsar et la femme de sa vie, égérie politique extraordinaire que vous connaissez grâce au film avec Daniel Darieux, Romy Schneider, Katia,
bon,
exquise, etc. Tout ça, c'est gardé
à Paris. C'est Katia Dolgorouki,
un grand personnage. Une gamine de 17 ans, le tsar vigoureux de 40 ans, tombe amoureux. Et elle était gênée parce qu'il était tsar. Ça s'est passé, juste un épisode, j'ai retrouvé encore une fois cette lettre gardée à Paris. Vous imaginez, toute la collection d'Alexandre II, encore une affinité, sont gardées à Paris dans le musée de manuscrits. C'est vraiment, pour moi, c'était quelque chose d'inépuisable, vraiment, de dire, encore une fois, ils se cachent. Et ils veulent que ça se sache, mais l'épisode qui m'a conquis de début, le tsar vient, et cette petite enfant de 14 ans, il chahute un tout petit peu la directrice de son école. Il a dit « Mais vous agissez comme presque une femme. » Et on raconte ça au tsar. Elle répond « Je suis presque une femme. » Cette femme, c'est la séduction pour l'éternité. Katia, que vous connaissez grâce à Nicolas et Alexandre.
Il y en a une qui, elle, femme, agit presque comme un homme, en revanche, et c'est par elle que tout est venu, bien entendu. C'est sans doute ce qui vous a donné envie de parler d'amour à tous les sens du terme. C'est la très célèbre impératrice tsarine Catherine la Grande, Catherine II.
Catherine II, encore une fois, c'est allemande d'origine, mais russe plus que russe. C'est une grande russe. Mais ça, c'est un grand réconfort, parce que justement, quand on m'a donné, il y a beaucoup d'années, toute la collection de lettres de Catherine, gardez au secret, s'il vous plaît. J'étais frappé jusqu'à quel point elle est moderne et elle a établi une sorte de catalogue d'amour. Elle est l'amour total, soyons très clairs, un grand réconfort pour nous tous, parce que dans une seule de ses lettres, il disait que les vraies histoires d'amour, c'est toujours après 40 ans. Et il a connu l'homme de sa vie à 44 ans, c'était un bon général Potemkin, et après ils se sont échangés des lettres. Et après ces lettres, comment ils font l'amour, de quelle manière?
Mais tellement d'amants chez Catherine,
mais
tellement de...
Mais pas du tout, Franck, franchement, il a moins d'amants qu'une Française moyenne. Française moyenne, 11,5, disent les sondages, elle a moins d'une Française. Pourquoi? Et chaque fois, c'est vraiment une de vraie histoire d'amour. Des grands hommes d'État, et puis elle m'a donné... J'utilise ça comme piste, l'amour total avec elle. Vous savez, les amours, je vous dis, les fantasmes, c'était Balzac. L'amour bestial, c'était Tolstoï. La force du souvenir, c'était Tchekhov. Elle m'a suggéré, elle m'a guidé, en quelque sorte. Mais ces lettres avec Potemkin, ça reste pour moi une sorte de sésame d'une modernité et l'art de garder conquête. Avec Potemkin, il a eu 2 années de passion totale. Et après, il a géré ça, l'amour sage, de quelle manière, même il a géré les à côté, ils ont géré ça, tout ça ensemble pour pousser la Russie au pinacle et créer le plus grand musée du monde, l'Ermitage.
La Volutée des Neiges de Vladimir Fedorovski, les grandes amoureuses russes, avec ce dernier chapitre consacré à l'amour unique, en quelque sorte, et merveilleux, entre Olga et Anton Tchekhov, c'est paru chez Albin Michel. Nous nous retrouvons lundi à 14h au cœur de l'histoire, et bien entendu, chère Anne-Sophie, dès samedi pour un nouveau grand portrait.
Merci Franck Ferrand, et à lundi, 14h sur Europe 1, dans quelques instants sur votre radio. Raphaël Antoven reçoit dans son nouveau numéro de Qui Vive Aurélien Lemans, comédien et écrivain, pour parler de l'affrontement à venir entre Captain Américain et Iron Man sur Europe 1.